Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de NU Info. Au menu de cette édition portant toujours sur le coronavirus, l'ONU expose l'impact de la pandémie sur son fonctionnement devant les États membres. Près de 11 millions d'enfants ne reçoivent plus de repas scolaires, avertit le PAM. En Europe, les pays s'accordent pour garantir la livraison du matériel médical, dont l'oxygène. Et en dossier, nous revenons sur les différents efforts en cours pour assurer la continuité scolaire. La pandémie du Covid-19 a bouleversé le travail de l'Organisation des Nations Unies dans son ensemble. Vendredi, le secrétaire général de l'ONU et les présidents de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité et du Conseil économique et social ont fait le point sur la situation auprès des États membres de l'organisation lors d'une conférence virtuelle diffusée sur Internet. Pascal Sim nous en dit plus.
Plusieurs réunions de l'ONU ont dû être annulées, reportées ou ont dû changer de format et de méthode pour qu'elles puissent se poursuivre à distance. Une adaptation qui n'a pas toujours été facile en raison des difficultés d'ordre juridique mais aussi technique pour les États membres les plus modestes. C'est un défi pour tous les organes de l'ONU, y compris le Conseil de sécurité, a déclaré Zhang Yun, l'ambassadeur chinois aux Nations Unies, dont le pays préside le Conseil au mois de mars. Le président du Conseil a souligné l'engagement de transparence de l'organe onusien en charge des questions de paix et de sécurité internationale. Malgré les difficultés, l'Assemblée générale des Nations Unies, qui réunit tous les États membres de l'ONU, poursuivra son travail vital dans ces circonstances exceptionnelles, a assuré son président. Les Nations Unies sont les mieux placées pour mener la réponse multilatérale au Covid-19, a ainsi rappelé Tijani Muhammad Bande, des propos dont s'est fait écho la présidente du Conseil économique et social des Nations Unies. Si la tendance en période de crise peut être au repli sur soi, la communauté internationale doit agir de façon décisive face à la pandémie, a déclaré Mona Yul. Le coronavirus a perturbé le monde à tous les niveaux, sanitaire, politique, économique, social et culturel. À cet égard, le secrétaire général a tenu à rappeler l'essentiel. C'est une crise avant tout humaine, a déclaré Antonio Guterres.
Avec la fermeture de nombreux établissements scolaires partout dans le monde pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus, près de 11 millions d'enfants ne reçoivent plus de repas scolaires du Programme alimentaire mondial. Ce nombre devrait augmenter dans les jours et les semaines à venir. Le programme se mobilise. Le PAM a lancé une carte géographique digitale qui fournit des mises à jour quotidiennes sur les fermetures d'écoles et le nombre d'enfants qui ne reçoivent plus ces repas. Elisabeth Beers, porte-parole du PAM.
La carte est un outil précieux parce qu'elle permet en temps réel de voir l'évolution de la situation des enfants qui sont privés de repas scolaires et qui ne sont pas à l'école pendant cette crise du Covid-19. C'est un outil interactif qui peut être utile à toutes sortes de catégories de personnes, aussi bien pour la communauté humanitaire, les enseignants et les étudiants, même à la maison, qui sont confinés. Le Programme alimentaire mondial essaie de faire tout son possible pour mettre en place des alternatives, pour essayer de proposer des rations à emporter à la maison quand cela est possible. Également, essayer de développer nos programmes de bons d'achat qui évitent tout contact et qui sont faciles à utiliser. Mais tout ça doit se mettre en place avec les gouvernements, avec les partenaires. Et je peux vous dire que le Programme alimentaire mondial fait tout son possible pour éviter que des enfants ne soient pas à la maison le ventre vide.
La crise du Covid-19 exerce également une pression très forte sur le secteur de la logistique et livraison, secteur indispensable notamment pour le transport des matériaux médicaux vers les hôpitaux. La demande d'oxygène est actuellement 5 à 10 fois supérieure à la norme en Europe. La Commission économique de l'ONU pour l'Europe vient justement de négocier un accord qui devrait faciliter le transport de ces matériaux dangereux et fragiles au cours des prochains mois. Les précisions de son porte-parole, Jean Rodriguez.
Les réglementations pour ce type de produits qui sont soit infectés, soit sous pression et qui donc nécessitent des modalités de transport particulières obligent à des révisions des permis et des connaissances techniques des chauffeurs tous les 5 ans. Et comme certains permis venaient à échéance maintenant, les pays se sont mis d'accord très rapidement, ont négocié des accords multilatéraux pour étendre la validité de ces permis jusqu'après l'épidémie, jusqu'à la fin de l'année. Nous soulignons que c'est un exemple intéressant de coopération internationale et du multilatéralisme, puisqu'on a face à une situation de crise une réponse institutionnelle des pays qui se coordonne et qui négocie dans le cadre d'instruments globaux des Nations Unies. Dans ce cas-là, 2 des accords sur le transport de ce type de marchandises par route et par voie navigable, que nous gérons, nous, à la CEONU, les pays arrivent à se mettre d'accord très, très vite pour mettre en place les flexibilités qui sont nécessaires dans une période tout à fait exceptionnelle comme celle que nous vivons maintenant.
Plus de 1,5 milliard d'apprenants dans 165 pays sont confrontés à la fermeture de leur établissement scolaire dû au Covid-19. Les gouvernements s'activent pour trouver des solutions pour assurer la continuité scolaire. L'UNESCO vient de lancer une coalition mondiale afin d'appuyer les États à développer les meilleures solutions d'enseignement à distance. Pour en savoir plus, nous avons joint Sobhi Tawil, chargée de la recherche et des prospectives en éducation à l'UNESCO.
En Afrique, dans la plupart des pays, 42 pays sont dans un système éducatif temporairement fermé ou suspendu, en tout cas que les classes, les écoles sont fermées, les universités sont fermées, qui impacte sur 264 millions d'élèves à tous les niveaux en Afrique. Le premier souci avec cette pandémie maintenant, c'est d'assurer la sécurité et la santé des élèves, des familles, des enseignants. Donc il y a des efforts simplement d'information par les autorités nationales, mais aussi par les autorités éducatives, donc des informations sur la prévention, sur les comportements à suivre. Maintenant, pour ce qui est des études, évidemment, il y a une disruption des études à tous les niveaux. Et les façons de faire face diffèrent de pays en pays selon leur capacité en termes d'éducation à distance.
Est-ce qu'on a une idée de combien d'enfants arrivent à bénéficier de ces plateformes parallèles, de cette scolarité parallèle à distance?
Non, on n'a pas de chiffres exacts là-dessus. Mais pour donner une comparaison de notre région, le Mexique par exemple, on estime qu'il y a 60% des élèves qui sont connectés. Donc il y a 40% qui ne le sont pas. Et c'est pour ça qu'ils combinent les modalités d'éducation à distance à la fois en ligne avec la télévision. La télévision est beaucoup plus démocratiquement distribuée. 95% des élèves au Mexique ont accès à la télévision. D'autres pays, l'Iran, le Maroc a visé aussi sur la télévision éducative, en ligne pour les universités, mais essentiellement à travers la télévision. Donc c'est vraiment les médias traditionnels qui vont pouvoir assurer une certaine continuité des études, ou en tout cas de contenu pédagogique tout au moins, si ce n'est pas aligné sur les programmes. Quoi qu'on dise sur les nouveaux médias, l'épine dorsale, et même dans des situations de contexte plus avancé, l'épine dorsale va être quand même des médias plus traditionnels comme la télévision et la radio.
Ça se passe par tranche horaire selon les âges ou ils font comment?
Souvent, oui, pour ceux qui suivent le programme, donc selon les classes ou les tranches d'âge, à des heures planifiées. C'est le cas en Iran, c'est le cas au Maroc. Dans d'autres cas, si on n'a pas tout à fait les programmes et les cours à la télévision, c'est aussi d'orienter, on le fait même en France, d'orienter certains des contenus généraux de la télévision, de la radio, à des contenus un peu plus pédagogiques, même s'ils ne sont pas forcément les contenus des programmes d'études.
Et la radio?
La radio reste, des fois il y a des combinaisons qui sont très efficaces entre la radio et possibilité de participer à travers un téléphone fixe ou mobile, de pouvoir intervenir dans des cours qui sont diffusés par radio. Il y a aussi les radios communautaires, les radios locales. Il y a des expériences qui sont assez réussies dans tout ce qui est un peu éducation à distance au sens large, avec des médias traditionnels comme la radio et la télévision. Le défi maintenant, c'est d'augmenter ça à une échelle nationale. En général, toutes ces stratégies étaient des stratégies plutôt locales pour des populations ciblées, souvent plus isolées ou ayant un accès plus difficile à l'éducation pour différentes raisons, question d'autres responsabilités de travail, de famille ou de question d'éloignement. Le défi qui se pose à tous, que ce soit pays du Nord ou pays du Sud maintenant, c'est comment mettre à échelle ces programmes d'éducation à distance. Et dans tous les cas, les stratégies sont toutes mixtes en termes de technologie, à des degrés variés selon les contextes, mais entre radio, télévision et les technologies nouvelles.
Voilà la fin de ce journal ONU Info, à retrouver sur notre page Internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité, bonne fin de semaine. On se retrouve lundi, même heure, même fréquence.